Tamani, voici nos informations en français.
Il est 18h à Bamako, même heure sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Voici les titres. Crise politique, la CEDEAO exige un président et un premier ministre civil pour diriger la transition au Mali et Sela dans un délai de 8 jours. Au même moment, le mouvement du 5 juin prévient contre un bâclage des concertations nationales. Reprise ce mardi du procès du présumé djihadiste malien Al-Hassan Agh Mohamed à la CPI. Le premier témoin appelé à la barre était néerlandais, spécialiste des zones de conflit, qui s'était rendu à Tombouctou au lendemain de l'intervention française en 2013. Le dossier du jour s'intéresse à la vente au bord des goudrons, une activité rentable selon les vendeurs, mais certains d'entre eux mènent cette activité sans une autorisation. À la présentation, Hamsitou Touré, Philippe Dembélé assure la technique. Comme l'annoncé dans les titres, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, donne un ultimatum de 8 jours à la junte pour confier la transition à des civils. Cette annonce a été faite ce lundi à Niamey au Niger, à l'issue d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement. Cet ultimatum de la CEDEAO intervient 3 jours avant l'ouverture des travaux des concertations nationales sur la transition prévues du jeudi au samedi prochain. Maliki Diallo.
La CEDEAO veut un président et un premier ministre civil pour diriger une transition qui ne va pas excéder 12 mois au Mali. Ces personnes devront être désignées au plus tard le 15 septembre prochain. Le communiqué final de l'organisation sous-régionale est catégorique. Les chefs d'État maintiennent par ailleurs les sanctions prises contre le Mali au lendemain du coup d'État du 18 août dernier. Il s'agit entre autres de la fermeture des frontières des pays de la CEDEAO avec le Mali et de l'embargo sur les échanges commerciaux et financiers. Ce sommet de la CEDEAO intervient à la veille de la tenue des concertations nationales sur la gestion de la transition. Ces assises prévues du 10 au 12 septembre s'annoncent donc décisives pour l'avenir du Mali, nous expliquent certains observateurs. Elles devront permettre de convenir des grands axes de la feuille de route de la transition, de définir l'architecture et les organes de la transition et l'élaboration de la charte de la transition. Les phases régionales de ces concertations ont eu lieu la semaine dernière sur l'ensemble du territoire. Si certaines régions comme Mopti, Tombouctou et Menaka ont porté leur choix sur un militaire pour diriger la transition, Gao, Kayi, Koulikoro et Ségou plaident pour une transition dirigée par un civil.
Depuis l'annonce de cet ultimatum de la CEDEAO, la junte n'a pas officiellement réagi, mais pour le moment, le mouvement du 5 juin, la CEDEAO ne doit pas mettre la pression sur les Maliens. Le choix des dirigeants de la transition ne doit être une course contre la montre, répond Issa Kaoudjim, membre du comité stratégique du M5-RFP. Selon lui, il revient au peuple souverain du Mali de choisir ses dirigeants à l'issue des concertations nationales. Le M5-RFP dit avoir confiance au comité national pour le salut du peuple pour transmettre le pouvoir aux civils. Écoutons Issa Kaoudjim, membre du M5-RFP, il est joint par Maliki Diallo.
Même le CNSP a parlé de transition civile. Pour nous, ce n'est pas un ultimatum. Le Mali sait ce qu'il veut, le Mali sait où il va. Les Maliens savent ce qu'ils veulent et les Maliens décideront ensemble au sorti de ces concertations qui sont prévues ce jeudi pour prendre la décision souveraine pour l'intérêt du peuple malien. Nous pensons que ce n'est même pas la CEDEAO. Nous, même si aujourd'hui on pouvait faire un président de transition, un premier ministre, même aujourd'hui on va le faire. Mais il s'agit d'éviter de bâcler, il faut que le peuple souverain s'exprime dans ses préoccupations. Si tous les Maliens viennent de partout et pour venir dire ce qu'ils pensent de la transition, qu'est-ce qu'ils voient comme perspective. Et donc tout ça, c'est les Maliens qui, intelligemment, et toutes les forces du changement se mettront ensemble pour le bonheur des Maliens.
Le mouvement populaire du 4 septembre tient cet après-midi un rassemblement à la place de l'Indépendance pour soutenir les forces de l'ordre et de sécurité. Selon les initiateurs, cette manifestation vise à appuyer l'ensemble du peuple du Mali pour une transition réussie aboutissant à un redressement du pays pour son émergence. Retrouvez ces informations en consultant nos statuts WhatsApp au 76 62 88 51 ou appelez gratuitement sur Viamo au 37 321. Elles sont également disponibles sur nos pages Facebook et Twitter. Procès du présumé djihadiste malien Al-Hassane à la CPI. Le premier témoin a pris la parole aujourd'hui. Il s'agit d'un journaliste indépendant néerlandais, spécialiste des zones de conflit. Il s'est rendu à Tombouctou au lendemain de l'intervention française. C'est grâce à lui que le bureau du procureur a pu se procurer certains de ses éléments de preuve. Pour la défense, difficile de se fier à ce témoin qui ne fait que des spéculations, car absent au moment des faits dont on accuse l'ex-membre présumé d'ACMI et dans Sardine, Sekou Gadigo.
Dans son intervention, le témoin précise qu'il n'a jamais été en contact avec le bureau du procureur avant sa venue au Mali. Mais selon lui, c'est en son retour qu'il est contacté par ce dernier. Cela après avoir publié des articles sur le Mali et son passage dans une émission sur la télévision néerlandaise. C'est au début du mois de février 2013 que le journaliste arrive à Tombouctou, objectif réaliser des reportages. Il décrit une ville à l'époque calme avec des impacts de frappe de l'armée française sur certains bâtiments. Accompagné d'une collègue et d'un fixeur, tous deux arabophones, le témoin sera à l'agence de la Banque malienne de solidarité. Celle-ci avait été transformée en un poste de police islamique. Sur place, il fait des photographies, notamment celle du guichet automatique où des femmes étaient emprisonnées. Il prend aussi des documents comme cette brochure dans laquelle était indiquée la tenue que les femmes devaient porter pendant l'occupation. À quelques encablures de là se trouvait le tribunal islamique. À l'origine, un hôtel dénommé La Maison expliquait. Là aussi, le reporter fait des photos, des documents que le bureau du procureur a pu se procurer pour constituer ses éléments de preuve. Pour la défense, le témoignage de ce journaliste n'est pas fiable car il n'était pas présent dans la ville au moment des faits qu'on reproche à l'accusé.
Le garage de la Direction générale de l'administration des biens de l'État a réceptionné ce mardi matin une soixantaine de véhicules retournés par les ex-ministres et députés. Cette action a été entreprise lorsque le Comité national pour le salut du peuple a demandé à ces derniers de rendre les macarons et les véhicules de l'État au plus tard ce jour. Selon les responsables du garage, les personnes concernées s'exécutent et le processus se déroule normalement dans l'ensemble. Mahamadou Tangara est chef du garage administratif des biens de l'État.
Hier, aujourd'hui, ce matin, on avait fait le point. Ce qu'on a reçu hier, plus ce qu'on a reçu ce matin, donc c'était à peu près une soixantaine de véhicules, tout confondu. Dans le communiqué, il est dit clairement, les ministres sortants, ensuite les députés qui viennent de l'Assemblée qui viennent de dissoudre. Pour les ministres, c'est les véhicules, mais pour les députés, il y a les macarons aussi. Et les macarons sont déposés au niveau de notre direction, la direction générale de l'administration des biens de l'État. La seule difficulté est que le temps donné est très court et tout le monde vient ensemble. Bon, c'est ce qui pose problème. Et puis chacun veut qu'il soit servi.
Sur un autre sujet, au Mali, la vente des aliments est devenue un métier florissant. Le long du goudron est envahi par les vendeurs de nourriture de tout genre. Les femmes vendeuses sont plus visibles dans ce domaine. Cependant, beaucoup d'entre elles occupent ces lieux sans aucune autorisation et sans l'avis de la mairie de leur commune. Un reportage signé Lala Aïcha Wallet.
Certains vendeuses de nourriture reconnaissent qu'elles occupent les bords du goudron sans autorisation. Elles affirment que leurs nourritures sont bien fermées et bien propres. Néanmoins, parmi elles, certains sont confrontés au manque de moyens pour améliorer leur lieu d'occupation.
Ce n'est pas la mairie qui m'a autorisé de vendre ici. Je me suis installée de moi-même et mes aliments sont bien fermés.
C'est mon oncle qui travaille à l'ESICA qui m'a ordonné de vendre ici. Je ne paye pas de taxes pour la mairie. Je n'ai pas un hangar pour me protéger. Je vends à l'air libre. C'est la pluie et le soleil qui me dérangent ici.
Selon le chef de recouvrement de la mairie de la commune D du district de Bamako, seuls ceux qui occupent des places derrière les caniveaux ont une autorisation d'occupation des lits. Aucun maire n'a autorisé cette vente en dehors des normes.
Tous ceux que vous voyez le long du goudron, nous les considérons comme des vendeurs ambulants. Ils n'ont pas d'autorisation de la mairie. Maintenant, ceux qui sont derrière les caniveaux, les trucs, c'est des gens qui sont installés selon les normes de la mairie et ils détiennent des autorisations. Nous payons deux taxes. La taxe par rapport à l'activité qu'ils sont en train de faire et on appelle ça taxe sur activité. La deuxième taxe, c'est la taxe qu'ils payent par rapport à l'occupation du domaine public.
En attendant une meilleure organisation du secteur, les lignes des routes continuent à être occupées sans autorisation par beaucoup de vendeurs.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
À présent, un tour en région. Présence djihadiste à Tukoroba dans le cercle de Banamba. Une dizaine d'hommes armés à moto ont fait irruption hier dans la ville et ont contraint les populations à se réunir dans les mosquées afin d'écouter leurs prêches selon les sources locales. Cependant, les mêmes sources indiquent que les autorités locales ont été informées de la situation mais sans apporter une suite. Pour rappel, depuis novembre 2016, les services de l'État sont absents à Tubakoro, CBT et Tukoroba. C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Hamse Toutouré à la mise en onde de Philly Dambélé. Restez à l'écoute dans un instant, la question A.